Monsieur Anissé Georges Adologuele, bonjour.
Bonjour.
Plus de 2 semaines, quelques jours aujourd'hui, plusieurs parties du pays, Bangui compris, sont plongées dans ces inondations. Comment réagissez-vous?
C'est une catastrophe naturelle que je regrette. On parle de presque 40 000 personnes qui sont sinistrées aujourd'hui. Et les eaux n'ont pas encore commencé leur décrue. Beaucoup d'habitations ont été détruites. Les risques d'épidémie sont réels avec les latrines qui se confondent avec l'eau et tout. C'est une situation très difficile que vivent nos compatriotes et c'est une situation que je déplore.
Et comment trouvez-vous aujourd'hui la réponse du gouvernement?
S'agissant de la réponse du gouvernement, le gouvernement s'est déplacé là-bas plusieurs jours après le début de la catastrophe. Alors que c'était une situation d'extrême urgence, puisque la météo avait déjà annoncé depuis la fin du mois d'août qu'il y aurait une série de pluies diluviennes. Donc le gouvernement aurait pu déjà se préparer simplement à gérer ces pluies diluviennes. Parce que quand il y a une série de pluies diluviennes, ça se termine toujours par des inondations.
Donc vous pensez que le gouvernement n'a pas pris des précautions nécessaires pour alerter ne serait-ce que la population à se préparer à faire face à ces inondations?
Comme pour tout, ils n'ont jamais pris de précautions dans n'importe quel domaine. Maintenant que la catastrophe est arrivée, je trouve la réponse un peu désordonnée. C'est-à-dire que sur les 40 000 sinistrés, on a mis quelques-uns à l'omnisport. Il n'y a pas suffisamment de latrines pour tout ce monde. Il n'y a pas d'eau courante. On ne peut pas mettre 40 000 personnes dans un stade. Donc, les autres vont où? Donc, je pense que les sites de relocalisation devaient être multipliés. Je trouve que c'est un peu un grand amateurisme.
À défaut de fonds de solidarité, le gouvernement ne peut que faire ce qu'il a pu. Est-ce que vous ne pouvez pas accorder au gouvernement une circonstance atténuante?
Nous avons dit au gouvernement que les missions du chef d'État à l'étranger, qui sont mal préparés, qui ne rapportent rien au pays. C'est à coup de 500 millions, de 800 millions, de 1 milliard, avec des délégations qui ne servent à rien, 20, 40, un nombre de personnes qui ne sert à rien. Et le gouvernement trouve rapidement de l'argent pour ça. Quand il y a des choses pour lesquelles il faut corrompre les députés, rapidement le gouvernement trouve de l'argent. Donc, en dehors de tout fonds de solidarité, le gouvernement a les moyens de sortir aujourd'hui 1, 2 milliards aider ces populations-là à atténuer leurs souffrances.
Parlons sécurité. Ali Darassa sort de son périmètre pour occuper Bambouti et mettre en place son administration. Quelle analyse faites-vous au niveau de votre parti?
Ce chef de guerre, depuis 2 ans, met le gouvernement à genoux par rapport à l'organisation des GMA à Bambari. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et j'avais dit dans la déclaration de l'URCA que beaucoup de gens savent dans ce pays que ce chef de guerre traite avec des très hautes personnalités ici dans des histoires de trafic de diamants, d'or, de bétail et tout ça.
Vous pensez à qui?
Je ne peux pas citer. Je vous dis ce que j'entends avec insistance. Ça rend le gouvernement faible vis-à-vis de ce monsieur. Également, la MINUSCA n'a jamais réellement frappé Ali Darassa. Il a pris en otage pratiquement les autorités du pays l'an dernier pour le GMO. Ce qu'il faut faire pour que Ali Darassa respecte les accords de Khartoum, c'est une frappe militaire.
Votre proposition ne sera-t-elle pas une prêche dans le désert dès lors que la MINUSCA dit clairement qu'elle n'est pas là pour faire la guerre et que le chef de l'État dit à qui veut l'entendre qu'il refuse de faire la guerre?
Je me souviens que il y a un an un peu plus, presque 2 ans, quand j'avais demandé à la MINUSCA d'aller frapper Sidiki à Okaranga, ils sont allés. Ils sont allés et ça a permis à la région de vivre tranquille jusqu'à récemment. Ça veut dire que s'ils veulent frapper Ali Darassa, ils vont le faire. Les chansons du président qui n'est pas là pour faire la guerre et tout ça, c'est une chanson qui énerve tous les Centrafricains. On ne lui demande pas à lui d'envoyer la garde prétorienne qu'il forme en cachette depuis 3 ans là pour aller lutter contre les chefs de guerre. Parce que vous savez qu'il en a formé plus de 1000 en cachette là. C'est devenu un chef milicien aussi. On lui demande de gérer le pays avec les forces onusiennes qui sont là, qui peuvent aider à mettre la sécurité.
Le président a été assauti. Il a demandé des armes. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'est une approche pour une réponse structurelle au problème?
Non, c'est du cinéma. Parce que quand un chef d'État veut demander des armes à un pays, C'est pas au cours d'un discours avec plein de monde et tout ça. L'organisation de notre armée est en cours. Nous avons besoin de les armer. Le chef d'État, il est dans son rôle de solliciter des pays amis et que des moyens létaux et d'autres moyens soient fournis pour le développement de l'armée. Mais est-ce que c'était pas mieux de demander des casernes maintenant?
Mais le gouvernement a lancé un plan de construction de casernes à PK22.
Oui, c'est un plan, comme beaucoup de plans que le gouvernement a lancés. Depuis la table ronde de Bruxelles, là, avec 2200 milliards qui ont été annoncés, chaque jour je vois les premières pierres là. Il y a que ça, des cérémonies de pose de premières pierres, des petits projets. Là, ce qu'ils viennent de lancer là, c'est beaucoup d'argent. Mais ce dont on a besoin maintenant, c'est des casernes pour loger nos soldats et éviter les projections. Donc, il y a beaucoup de questions pratiques qui font qu'on a besoin maintenant de commencer à mettre nos militaires dans les casernes.
Deux proches du Premier ministre collaborateur à la primature ont été virés suite à une mission diplomatique. Comment analysez-vous cette situation?
C'est un dossier assez grave. C'est-à-dire que nous avons le chef d'État qui est le patron de la diplomatie. Nous avons un ministre des Affaires étrangères. Mais le Premier ministre envoie des collaborateurs en cachette pour aller signer des accords de reconnaissance d'un État contre de l'argent. C'est extrêmement grave. Quand on en parle et qu'on lui demande de donner des explications, ils disent qu'il y a des gens qui sont jaloux de lui. On peut pas être jaloux de cas de corruption. C'est des événements extrêmement graves pour lesquels ils doivent s'expliquer. Être ponctuellement au pouvoir ne veut pas dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Ce pays existe depuis 60 ans. Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas fait ce genre de choses avant?
Donc, limogé, les deux ministres conseillers revient à dire que le chef de l'État a sauté le fusible et non les principaux responsables.
C'est pour ça qu'on a dit que le Premier ministre devait démissionner. Le chef d'État lui a donné un message clair. Je vire tes deux principaux collaborateurs. Ça veut dire que j'ai plus besoin de toi. Il devait démissionner. Quand on exerce ces fonctions-là, il faut avoir un peu de dignité.
Bangui connaît une série de marches contre Abdoulkarim Mekassoua. Ce sont des prétendues victimes pour demander la levée de son immunité parlementaire. Quelle analyse faites-vous de ces séries de marches?
La levée de l'immunité parlementaire est un acte de justice. Quand ils sont sortis de l'Assemblée, j'ai des collègues qui les ont vus là, on leur distribuait de l'argent devant l'Assemblée. C'est honteux. Il faut pas exploiter la misère des gens pour faire n'importe quoi.
Les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections, disent ceux qui sont dans Ezingor. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui la République centrafricaine est prête pour organiser les élections de décembre 2020?
Imaginez que les élections aient lieu aujourd'hui. Comment moi je vais aller faire campagne dans la Waka, dans le Mbomou, dans le Mbomou, dans la Basse-Koto, qui sont contrôlés par Ali Darassa? Même dans le processus, une loi a été déposée à l'Assemblée nationale. Loi organique sur l'ANE. La commission élargie de l'Assemblée nationale a commencé à travailler sur cette loi. Et le gouvernement vient retirer parce que le gouvernement se rend compte que de la manière dont on travaillait, ça allait contre les dispositions qu'ils prennent déjà pour tricher.
Vous présentez la fraude déjà pour le processus.
Mais ils ne se cachent pas. Ils estiment que l'État appartient désormais au MCU, que vous et moi, nous sommes les esclaves du MCU. Donc, gouverner, c'est prévoir, et en tant que leader politique, nous lançons l'alerte pour dire attention. Au stade actuel, avec tous les retards qui s'accumulent, nous sommes inquiets pour le processus. Vous savez, un glissement est une crise politique.
Monsieur Anissé Georges Dorguelé, je vous remercie.
C'est moi.